Boulanger.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Bien le bonjour, dans l'heure CV. Salut, c'est un petit matin beaucoup plus sombre que ce qu'on a eu dans les derniers jours, mais c'est pas grave. On fait avec, puis ben, on va y aller cocooning. On va y aller en discussion un petit peu plus relax. On va rire aussi en début d'émission. Ben, on va rire, puis pas en même temps. Je suis sous le choc d'une émission que j'ai trouvée par hasard. Vous savez, là, j'adore ce que nos amis européens font à la télévision. Ils sont stridents, ils sont francs. Ils sont un peu trop intenses parfois, assurément dans le débat. Mais là, je suis tombée sur une émission épouvantablement difficile à croire. Et j'en jasais avec Reg pendant ben, l'entre-deux, là, pendant Reg Again ce matin et leur CV. Il y a comme un petit moment où on est en publicité. Puis j'en jasais de ça avec lui. Puis il dit « Hey, il y a une émission aux États-Unis qui c'était ça dans le temps. » Ça me fascinait de voir qu'il y a des gens qui y participaient. Puis c'est vraiment mon constat. Je me demandais même si c'était des comédiens. Bon, on en reparle. Mais en ce moment, ce n'est pas une comédienne qui vous jase. Je m'appelle Pascal. Jusqu'à 11h, je vous accompagne dans ce qu'on appelle leur CV. Une heure avec Pascal CV. Bon, voilà, c'est le menu aujourd'hui. Jérémy Gio va venir parler d'immigration avec nous. On va y en parler parce que, justement, on veut aller prendre un peu le pouls de la population avec le gouvernement de la CAQ là-dessus. Est-ce que vous voulez donner votre avis? Est-ce que vous sentez qu'on va vous consulter pour des raisons adéquates? Est-ce que vous trouvez ça adéquat, ce genre de sondage qui va être fait auprès de la population en ce qui concerne l'immigration? Il va nous éclairer là-dessus également pendant cette heure-là. Je souhaite que vous alliez bien. Je souhaite également que vous soyez dans un endroit où il n'y aura pas trop de débordements de rivières, de cours d'eau ou autres, parce que, ben oui, on attend plusieurs millimètres de pluie au courant des prochaines heures. Pour aujourd'hui, c'est quelques averses sur la grande région de Québec. C'est vraiment à partir de demain et surtout vendredi là, que ce sera assez intense. 5 degrés, c'est ce qu'on ressent en ce moment dans la capitale nationale. Ça peut monter jusqu'à 7, mais des alertes météo, on en a. On a un avertissement d'onde de tempête là, pour un peu partout dans la région. En fait, on prévoit des niveaux d'eau plus élevés que la normale pour ce matin jusqu'à vendredi, justement, combiné à des vents modérés, là, mais modérés à fort. Alors, il y aura des inondations côtières peut-être possibles le long du littoral. L'érosion côtière aussi qui est possible dans les zones qui sont à risque. Les avertissements qui sont émis pour les niveaux d'eau et les endroits où ils sont concernés, justement, par ces problématique printanière-là. Et justement, la semaine dernière, quand on a parlé à Jérémy Guillaume, on a jasé de cet élargissement des cartes de zones à risque qui seront présentées. Et peut-être que maintenant, votre zone en fait partie. Puis il y avait des auditeurs qui jasaient de ça, justement, comme quoi il y avait une certaine inquiétude, mais en même temps, ils ne seraient pas trop surpris d'être rendus dans les endroits où il va falloir obtempérer d'une manière ou d'une autre en tant que citoyen aux recommandations gouvernementales ou encore, ben, peut-être tout perdre. Puis c'est ça qui est malheureux, en fait. Il y a les assurances, des fois, qui sont un petit peu plus dans le déni du fait d'assurer comme il se doit, là, parce que, justement, finalement, c'est plus de risque d'autre chose. Mais voilà, pour les conditions météo au courant des prochains jours, c'est de la pluie intermittente en grand général là, pour tout ce qui est notre région. Et des nuages, bien, à partir de lundi prochain, je vois quelques percées de soleil. On souhaite, en fait, que Dame Nature change d'avis. Hein? Elle a le droit, puis elle pourrait. Hier, j'ai fait le proverbe un petit peu plus tard, puis vous me l'avez dit par texto au 88-971-1021. C'est quoi le proverbe d'aujourd'hui? Oui, c'est notre habitude. Sinon aussi, vous pouvez nous suivre sur Twitch. En passant, il y a des caméras en studio. twitch.tv/blvd/fm. Le proverbe d'aujourd'hui. Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Qui ne veut rien faire, trouve une excuse. C'est excellent, ça. Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Peut-être que ça va vous servir au travail avec un collègue aujourd'hui ou encore avec des employés ou encore envers votre employeur ou encore envers vous-même. Si c'est vous-même, bien, écoutez, soyez doux, mais dites-vous-le à répétition pour peut-être être un petit peu plus proactif, je ne sais pas. Ça vous en a-tu pris un petit peu plus de gaz ce matin, justement, vu que c'est sombre? Bon, chose certaine, on va vous en donner avec Caravane. Wow Minute à Boulevard 102.1, c'est l'heure habituelle à laquelle on s'en va se couler un café pour passer l'émission ensemble. Puis je vous dis au retour, on parle de la fameuse émission télévisée en Europe qui m'a fait capoter, disons le même. Juste avant de parler de l'émission, je vous rappelle le concours qui est en cours, justement, sur les ondes de Boulevard 102.1. À chaque émission, on vous en jase, puis on vous le conseille, en fait, d'écouter toute la programmation. Parce qu'au moment où vous entendez une chanson de Blink 182, ça vous donne une possibilité de participer à notre gros, gros concours, le Rock and Ball. On va dire de même en français, Rock and Ball. On vous envoie en Californie, finalement, en juillet prochain. Ça va être un peu incroyable. Merci pour les gagnants, parce que la partie rock, c'est deux billets pour la tournée réunion de Blink 182. Ce sera au Chase Center. Et en plus, ben, il y a deux billets pour les Blue Jays contre les Giants au Oracle Park à San Francisco. En juillet, qui s'en vient. Ça inclut le vol, l'hébergement, de l'argent de poche aussi. Ça risque d'être assez mémorable, merci. Puis pour savoir que les derniers qu'on a envoyés en voyage ont trippé de la manière dont ils l'ont fait, ben moi, je vous conseille de continuer d'écouter Boulevard 102.1. Au pire d'une oreille, si vous avez à travailler sur Twitch, mais vous notez l'heure quand vous entendez une chanson de Blink 182 et vous allez sur le site de BLVD, blvd.fm. Dans la section concours, vous allez voir, c'est très simple, et vous entrez votre participation avec l'heure à laquelle la chanson a joué. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Puis il y a un finaliste qui sera nommé chaque jour dans Gravel dans le retour. C'est commencé et on continue jusqu'au 26 avril prochain. C'est comme un petit blitz, il reste quelques jours. Puis justement, chaque jour, vous pouvez entrer deux participations par personne. Il n'y a pas beaucoup de concours aussi simples, efficaces et assurés d'être dans le bucket pour se faire piger. Honnêtement, là, on est tellement fiers de vous offrir ça. Puis c'est pas sans des partenaires invariables à ce genre de choses-là. C'est Variété 2020, en fait, qui embarque dans notre trip de rêve. Et Variété 2020, si vous ne connaissez pas ça, bien, vous allez devoir le connaître parce que, vu justement qu'ils embarquent dans nos trips, bien, on a envie de leur redonner aussi. Mais le pire, c'est qu'ils nous redonnent quand on leur redonne parce que c'est des économies que vous allez faire. C'est un magasin de surplus d'inventaire à Québec. Il y a de la nouvelle marchandise à chaque jour à des prix qui sont incroyables, en fait, dans des vêtements, des jouets, de la literie, de l'électronique. Allez voir leur page Facebook. Vous allez trouver votre compte, puis finalement, ça va devenir quelque chose qui va se greffer à vos habitudes, c'est sûr. Variété 2020, retenez ça. Puis merci à eux, hein, sûrement à toute la belle gang, parce que c'est un voyage d'une valeur de 4000 $ qu'on vous offre sur les ondes de Boulevard, simplement pour vous remercier d'écouter la station. Ça prend pas grand-chose, ça prend vos habitudes normales. Aussi simple, aussi simple.
Avec Pascal CV.
Allons, ayons confiance.
Boulevard 102.
Vous avez dit qu'on allait rire un peu en début d'émission, mais on va peut-être rire jaune. Je me questionne encore à savoir d'où ça vient, pourquoi ça existe aussi. Mais en parlant avec Reg, ça lui a rappelé une émission américaine. Participeriez-vous à une émission, si on vous payait là, un haut cachet pour aller dévoiler un secret ou aller dévoiler quelque chose qui doit se savoir, pas nécessairement de façon publique, mais vous vous dites, hey, je vais aller dans une émission comme ça où c'est ouvert avec un public qui va commenter en temps réel ma situation, qui va voir le jour et qui concerne des gens que je connais, qu'on va inviter avec un cachet aussi, sans qu'ils sachent pourquoi on les invite. Je vous explique. Il y a un plateau français qui existe et qui s'appelle « Ça va se savoir ». C'est des gens qui arrivent sur le plateau, s'inscrivent et disent, ben par exemple, moi, je veux avouer à mon ami de toujours que je suis en amour avec. J'ose pas le faire. Donc, je vais venir vous révéler ma situation sur le plateau. Puis, l'équipe de recherche va contacter mon meilleur ami, va dire, hey, ton ami Pascal a vu que tu viennes sur le plateau, on donne un cachet X, mais tu sais pas à quoi t'attendre puis tu sais pas ce qu'elle va te révéler. Viens-tu? Puis là, la personne pourrait dire, oui, je viens. Puis là, apprends en même temps que le public est tous les téléspectateurs, ce que j'ai à révéler. Finalement, est-ce que c'est une façon de faire de l'argent? Est-ce que c'est une façon, des fois, d'apaiser les tensions qui peuvent s'en suivre avec certaines déclarations? Je me pose beaucoup de questions. Je me suis même posé des questions à savoir, c'est-tu des acteurs tellement que ça n'a aucun sens, certains sujets, dont celui-ci. Puis c'est comme ça que je suis tombée sur l'émission. Je vous laisse faire votre tête là-dessus, mais je vous explique le début. C'est une jeune fille de 21 ans, si je ne me trompe pas, qui est assise devant public et qui avoue avoir couché avec le... C'est pas son père, là. Tu sais, il faudrait pas... Tu sais, quand on dit... on va pas trop en mettre non plus, là. Mais elle a couché avec le petit ami de sa mère. Donc, elle a une relation avec lui, ils s'écrivent, ils se textent. Puis sa mère est invitée, elle a des écouteurs où elle n'entend rien de ce que sa fille est en train d'avouer, en fait, sur la scène. Puis elle vient de le dire, la jeune fille, au public, elle vient de le dire à la télévision, elle vient de l'avouer. Puis elle dit qu'elle veut aller plus loin dans cette relation-là avec le chum de sa mère, qu'elle est tombée en amour avec. Et sa mère arrive sur le plateau, on l'invite, voici ce que ça donne.
Faites entrer Agnès. Agnès. Delphine a souhaité votre présence car elle a quelque chose à vous dire, quelque chose à vous révéler. Quelque chose qui ne sera peut-être pas facile à dire, mais vous brûlez d'envie de le faire.
Je voulais te dire que j'étais amoureuse de Jean-Claude.
Jean-Claude, c'est le petit ami de sa mère.
Mon Jean-Claude. Il y a un peu plus d'un mois, quand je l'ai aidé à faire ses comptes, et ben on a eu un rapport sexuel. Et que depuis...
Parce que tu veux dire que...
Un rapport sexuel.
Il est gêné, de te le dire et il ne te le dit pas. Moi, ça me gêne parce que j'ai envie de faire ma vie avec lui et...
La foule commente! Jerry Springer.
Putain, c'est pas possible. Tu divagues, là. C'est une plaisanterie, c'est quoi?
Non, c'est...
C'est pas une plaisanterie.
Que c'est pas mon beau-père. Ma mère change de mec tous les deux ans, donc c'est
Attends,
pas mon beau-père.
N'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Tu mériterais une baffe, presque. Attends, d'abord, je vis ma vie. Je t'ai élevé correctement. Moi, je t'ai élevé avec des principes, ma fille. C'est n'importe quoi. Comment t'as pu? Mais attends, il y a quoi s'énerver? C'est un manque de respect, c'est... Je suis humiliée.
Je suis pas toute seule, d'accord?
C'est lui, t'as forcé la main? Comment ça s'est passé?
Non, il m'a pas forcé la main, ça s'est passé comme ça, et je suis sûre qu'il est amoureux de moi, et j'ai envie de faire ma vie avec.
Je peux te dire, je me retiens vraiment de te donner une baffe, parce que c'est tout ce que tu mérites.
On accueille Jean-Claude.
Il accueille Jean-Claude. Jean-Claude, il arrive, il a l'air d'un beach bum. Tout dégrayé, les grands cheveux longs. C'est pas pourquoi il est là, mais il donne un cachet, il arrive.
Jean-Claude, bonsoir. Vous avez une quarantaine d'années, vous êtes artisan décorateur. Delphine a souhaité votre venue face à sa maman. Delphine a quelque chose d'important à vous dire.
Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que Delphine nous a révélé une partie de sa vie qu'elle considère comme grave et importante, qu'elle l'a dit à sa maman, et que maintenant, puisque vous avez accepté de répondre à son invite...
J'ai dit à maman donc qu'on avait eu un rapport ensemble il y a un peu plus d'un mois et surtout que, étant donné...
Jean-Claude, elle se fâche, la mère se fâche. Et Jean-Claude, il dit, il ne s'est rien passé, j'ai finalement profité que du moment, j'aurais dû penser avant, là, la chicane pogne sur le plateau. Puis je suis allée voir plein d'autres scénarios. Il y en a que c'est des gens qui ont vécu des relations extra-conjugales aussi. Il y en a qui se battent, ça va vraiment très, très loin. Puis dans le public, les gens peuvent commenter au fur et à mesure la situation. Ça vous rappelle beaucoup de souvenirs hein, avec l'émission de Jerry Springer. C'est comme le 2.0 français de tout ça. Il y a des vieux épisodes, ça roule depuis longtemps. Je me demande encore comment ça peut passer. Mais c'est vraiment beaucoup de confidence. Puis ça me fait vraiment rire, en fait, de voir que ça passe, puis c'est apprécié, puis c'est encore des codes d'écoute pour que ça continue d'être diffusé. Auriez-vous un secret comme ça à avouer sur un plateau? Mettons, je vous donne là, 10 000 $ pour participer à une émission comme ça. Le faites-vous? Et si oui, avec quelle révélation? En même temps, allez-vous me le dire? Je ne suis pas sûre, parce que je ne l'ai pas, moi, le 10 000 $ pour vous. Ça prend des fois, tout le monde a son prix. Là. Des fois, ça prend un peu plus d'argent dans l'enveloppe pour que vous y allez aussi loin. Mais en même temps, j'espère vraiment que vous n'avez pas couché avec le petit ami de votre père ou votre mère. Ça pourrait être une histoire à ne pas répéter. Hein. Peut-être que c'est une leçon de vie, finalement. Mais ça me fait vraiment halluciner que ça existe, ça. Ça va se savoir, hein, nos amis français. Ils vont toujours nous surprendre avec leur révolution télévisuelle, leur débat, leur plateau de télévision. Bob Bissonnette! Avec Hockey dans rue, on en souhaite plein pendant le printemps, mais restez prudents. Au retour, on parle d'école privée. Ouais, puis vous rappelez-vous de Marie-Josée Savard? C'est elle qui va venir s'asseoir, la dauphine, l'ex-dauphine de Régis Labeaume. On est de retour à l'heure CV avec des invités spéciales. On va parler d'éducation, mais pas avec le prof d'Encausse, comme d'habitude. Sylvain d'Encausse, il enseigne en ce moment. Mais c'est, oui, notre chroniqueur éducation. Mais quand je vous parle d'invités spéciales, deux femmes en studio, vous pouvez vous brancher sur Twitch, assurément, comme d'habitude, pour les voir. Une que vous connaissez foncièrement depuis plusieurs années. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Si je vous dis Marie-Josée Savard, hein, je pense que toute la ville de Québec la connaît depuis plusieurs années. Bonjour, Marie-Josée Savard.
Ça va bien, Pascal?
Ça va très bien, merci. Bon, j'ai pas le choix de faire référence à votre passé politique. Vous avez été dans l'équipe Labeaume pendant plusieurs années. Vous avez été la dauphine aussi de Régis Labeaume. Vous avez vécu des élections rocambolesques.
Mais reste deux heures.
Oui,
Non, mais ça, c'est quand même pas rien. D'après moi, je suis la seule à avoir vécu ça.
Dans la vie, peut-être même, tu sais, même. Mais reste 2 ans. Vous êtes sortie de ça maintenant, alors, en 2024.
Tout à fait, tout à fait. Je suis maintenant directrice générale de l'École des Ursulines de Québec. Aujourd'hui, ici, comme porte-parole là, pour le Salon des écoles privées. Donc, oui, je suis maintenant en poste depuis 2 ans. Très heureuse.
D'être dans le domaine de l'éducation, c'est toujours quelque chose qui était resté dans votre angle mort?
Ou... Non, pas du tout. Là. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé de façon vraiment...
Spontanée.
C'est une occasion, je vais le dire comme ça. Mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure à Vanessa en riant, c'est toujours agréable d'avoir des câlins d'élèves au lieu d'avoir des commentaires négatifs
de citoyens qui roulent à l'hôtel de ville.
Exactement.
Mais ça t'est-tu rafraîchissant, justement, changer de domaine?
Ah, vraiment.
Parce que vous vouliez quand même, puis on va passer au sujet principal, mm-hmm. assurément, mais vous vouliez quand même être la prochaine mairesse de Québec. Fait. Là, on voit un Bruno Marchand qui en arrache avec des dossiers assez épineux. Merci. Je peux pas dire le contraire. Là. Je sais même pas si lui, puis je vous détache de tout propos, je sais même pas si lui était prêt foncièrement à vivre tout ce qu'il vit politiquement parlant en ce moment. Quand vous voyez ça, avez-vous un regret? Vous vous dites « Oh, je l'ai échappé belle ».
Non, j'ai même pas ces pensées-là.
Ah ouais?
Je pense que quand on est rendu là à se lancer en politique, au point de se lancer à la mairie, c'est parce qu'on souhaite vraiment continuer à travailler pour notre ville. Puis moi, c'était vraiment ça. C'est sûr que ça faisait déjà 10 ans là, que je pataugeais dans la politique municipale. Mais je pense que la meilleure image, c'est de dire, lorsqu'on est dans le train puis que ça roule, on voit pas à quelle vitesse que ça va. C'est sûr que maintenant, à un coup débarqué du train,
ouh, la vie est plus paisible.
Tu te dis, OK, finalement, c'est le fun, les soirées à la maison puis les week-ends. Puis non, c'est certain que le rythme de vie aurait été différent. Mais non, je regrette pas d'avoir fait l'expérience, mais je regrette pas non plus d'être où je suis aujourd'hui, ouais. Avec une équipe extraordinaire, puis une belle famille. Là, j'apprends, là, je suis nouvellement membre de cette famille-là, là, des écoles privées.
Mais il y a comme un petit lien, vous avez toujours été proche des gens, puis ça, on pourra jamais vous l'enlever, mais il y a un lien entre la politique, vouloir changer les choses dans une ville, puis peut-être aussi être au balbutiement du développement de l'enfant, tu sais, à l'école. Est-ce que c'est quelque chose, finalement, que vous retrouvez dans le côté humain du système scolaire?
Mais j'ai envie de dire que la gestion d'une ville et la gestion d'une école, c'est pas si différent,
ah oui?
Autre que la grosseur de la gestion. Je veux dire mais oui, la relation avec les élèves, la relation avec les parents, avec l'équipe aussi, parce qu'on retrouve ça un peu en politique. On aime être dans une équipe, mais à l'école, j'ai mon équipe école.
Oui.
J'ai aussi... je vous dirais, c'est pas si loin. C'est sûr que, bon, l'éducation, bien, de pouvoir prendre nos petits cocos dès la maternelle, les voir grandir, les voir partir, on s'attache, puis il y a un sentiment de... Je dirais pas d'accomplissement à ce point-là, là, mais quand même.
Ça fait partie de, je
tout
pense.
À fait.
On a tous souvenir d'une direction d'école ou encore d'enseignant dans notre cheminement personnel, qui soit personnel ou éducatif, parce que des fois, les deux s'entremêlent, surtout dans ces âges-là, non?
Tout à fait. Puis c'est toujours surprenant aussi de voir l'éveil des enfants. Comme là, dernièrement, à l'école, on a fait une expo, puis on parlait de plusieurs sujets. Puis là, j'ai eu des élèves qui sont venus cogner à ma porte. Exact, qui sont venus cogner à ma porte pour dire, Madame Marie-Josée, est-ce qu'on peut vous parler du tramway?
C'est vrai, c'est ça, Madame Marie-Josée, maintenant. Vous parlez du tramway?
Mais oui,
parce qu'ils ont su, c'est
par les parents, j'imagine, ou en tout cas, mais c'est de voir comment, justement, les enfants d'aujourd'hui ont cette...
Les enfants d'une école primaire, oui. Là, des Ursulines, oui. Dans ce cas-ci.
Mais je suis sûre que toutes les écoles
sont venus cogner à votre porte de directrice, oui. Pour demander des informations sur le tramway.
Tout à fait. J'ai même, pendant les élections,
là,
on a un conseil d'élèves et pendant les élections, j'ai un petit garçon qui est venu cogner et dit « Madame Marie-Josée, est-ce que je peux avoir des conseils pour la campagne électorale? »
Non, c'est absolument mignon, ça. Oui. Mais le tramway, j'ai l'impression qu'il voulait savoir les plans initiaux du maire Labeaume, ou encore savoir si, lors de la fameuse élection, il était au courant que ça allait être son projet. Mais ça, c'est peut-être des parents en arrière. Ou encore l'équipe marchande avec les enfants à l'école. Bon, je fais des blagues. Mais vous êtes ici pour une belle cause aussi. En fait, c'est une belle opportunité de connaître tout ce qui est privé dans l'éducation. Puis souvent, c'est pas toujours accessible. On pense dans notre tête au côté monétaire et autres. Puis il y a quelqu'un qui vous accompagne. Madame Savard.
Oui.
Madame Marie-Josée, tiens, je vais vous appeler
oui,
comme
c'est
ça.
C'est parfait, j'aime ça.
Vanessa Désiel qui est là. Qui êtes-vous, ma chère?
Oui, moi, je suis aux communications à l'Académie Saint-Louis, aussi à Québec. J'accompagne aujourd'hui Marie-Josée là, pour les entrevues.
Pour les entrevues, parce que il y a un salon, en fait, des portes ouvertes aussi là, oui. pour tous et chacun, pour découvrir un peu c'est quoi le réseau des écoles privées. D'abord et avant tout, on a le stéréotype que c'est un peu plus huppé, que c'est pour, bon, un peu inaccessible pour certains mm-hmm. budgets, et où que c'est les enfants de parents qui sont allés à cette école-là qui continuent, hein, un genre de hiérarchie sociale. Est-ce qu'on coupe ça tout de suite, cette idée-là?
Mais en fait, je vous dirais qu'un peu tout, là. C'est sûr que souvent, le sentiment, moi, je dirais, c'est plus... pas tant la hiérarchie que le sentiment d'appartenance, ça, on le vit. Mm-hmm. Puis là, je regarde Vanessa qui travaille pour l'Académie Saint-Louis puis qui est une ancienne élève de l'Académie Saint-Louis. Donc, c'est sûr que le sentiment d'appartenance fait partie des éléments. Mais oui, en effet, ça a évolué énormément, là, maintenant, l'école privée. Oui, à certains moments, je suis d'accord qu'on voyait ça un peu comme l'élite, les gens qui étaient aisés financièrement, mais on n'est plus là du tout. On est rendu, je vous dirais, une option supplémentaire au niveau de l'éducation, c'est puis pour tous. Donc, le salon de l'école privée, c'est le rassemblement, parce qu'on est une 34 écoles privées dans la région de Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, là, on parle de primaire, secondaire, collégiale, et là, on va être environ une trentaine, on sera peut-être pas tous là, mais presque tous là okay. À ce salon-là, puis ça donne l'opportunité aux parents, avant les portes ouvertes qui sont habituellement en septembre, octobre, de venir rencontrer les équipes écoles, rencontrer les directions, mais de pouvoir en rencontrer plusieurs, parce qu'on se leurre pas, lorsqu'arrivent les portes ouvertes, on le sait, c'est des samedis, des dimanches, on peut pas faire la visite de toutes les écoles, donc on en sélectionne. Malheureusement, des fois, on passe à côté de certaines qui auraient pu répondre aussi à nos besoins, parce que contrairement à un certain moment, à un certain temps, où les gens regardaient souvent l'école la plus près de la maison, maintenant, c'est plus ça. On
ouais, l'école constate. Bassin, là.
Exactement.
Ouais.
On est ailleurs, les gens... Toutes les écoles privées ont... Moi, je m'amuse à dire qu'ils ont leur elles ont leur personnalité, ont leur force, se démarquent par des... soit le sport, soit la musique, les arts, la science. Donc, ça permet donc ce salon-là, une première rencontre avec les écoles de la région pour les parents et les élèves aussi, parce qu'on a aussi un lieu là, d'exploration là, où on va avoir des technopédagogues, technopédagogues élèves également qui, pour faire de la robotique, montrer comment ça se passe la robotique dans nos écoles, la musique également, les arts plastiques, le
sport. On parle des écoles, on a axé notre conversation sur le primaire parce que vous êtes dans une école primaire, mais c'est vraiment primaire jusqu'à collégial,
exactement.
En fait, au niveau privé, autant pour la Capitale-Nationale que pour Chaudière-Appalaches.
Tout à fait.
C'est quoi les avantages, en fait? Là, c'est comme un petit... Je ne vais pas faire un débat, je veux juste qu'on va focusser sur le pourquoi on en parle, mais d'une école privée. De quoi vous êtes fiers? Qu'est-ce que vous prônez, tu sais, au sein de ces écoles privées-là?
En fait, je ne dirais pas un avantage, mais je dirais qu'on est un peu un complément de l'école publique. On offre une option supplémentaire. L'école privée, pardon, comme je le disais tout à l'heure, c'est... souvent une personnalité, a souvent une force qui va faire que les enfants vont pouvoir aller au niveau de leur passion, de leurs intérêts,
avec
vont se reconnaître. Exactement. En fait, c'est un milieu de vie. Moi, je dis tout le temps, comme adulte, on veut travailler dans des milieux de vie qui nous ressemblent, mais c'est la même chose pour les élèves. Donc, quand le parent va vers d'autres écoles pour voir qu'est-ce que les écoles offrent, c'est ça l'objectif, c'est de voir quel milieu de vie qu'on veut offrir à nos enfants qui correspond à leur passion, à leurs intérêts ou à leurs besoins. Ça peut être ça aussi. Parce que nous, on a quand même, au niveau de la région, on a quand même des écoles qui sont aussi en adaptation scolaire. Donc ça aussi, là, tout à l'heure, on parlait de l'élite et tout ça, mais il y en a plein, en tout cas. Un élève sur cinq, là, en moyenne, ont des plans d'intervention. Donc, je veux dire, c'est plus l'école où les gens qui étaient là passaient des tests de sélection. Ça, c'est l'autre chose. Il n'y en a plus maintenant. Là.
Okay, plus
la
de
plupart
de
des écoles, okay. Je vous dirais. Là. Okay. Je ne pourrais pas dire la totalité, mais la plupart font même plus de tests non plus d'évaluation là, pour l'admission. C'est vraiment les gens. Et de là, l'importance pour les parents de connaître les dates d'admission parce que c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Donc, on inscrit nos enfants sur la liste, puis aussi longtemps qu'il y a de la place dans l'école, il n'y a pas de souci.
C'est possible. C'est quoi peut-être les défis pour l'école privée, pour se faire connaître telle qu'elle est?
Bien, en fait, c'est de faire ce qu'on fait là, justement, avec le salon, je pense. Ça donne l'opportunité, c'est gratuit. Ça donne l'opportunité aux parents de venir voir, de poser les questions, d'avoir réponse à leurs questions. Moi, je pense que c'est notre travail, justement, puis de démontrer aussi qu'on est une famille, la Fédération des écoles privées, là, la FEEP, là, qui organise ce salon-là, fait qu'on on n'est pas, parce qu'on est toutes des OSBL, hein, on n'est pas des entreprises en tant que telles, donc on a tout avantage à travailler ensemble, puis c'est ce qu'on fait aussi.
Un gros regroupement, mais non syndical.
Exactement, si on veut. Malgré qu'il y a des écoles qui sont quand même syndiquées, mais tout ça, mais c'est ça. Donc, je pense que notre travail, c'est justement de...
D'enlever peut-être l'étiquette
oui, princière. Oui, parce que c'est vraiment pas ça. C'est vraiment plus ça. Moi, je dis tout le temps, on est complémentaire à l'école publique, on est une option supplémentaire.
Dans les budgets, là, un parent qui nous écoute, là, puis qui se dit, ben, il faudrait peut-être que je fasse un loyer dans le sous-sol de la maison pour être capable d'offrir cette éducation-là à mon enfant. Ça, c'est un vieux préjugé aussi. Côté coût, c'est sûr que c'est plus élevé. On peut pas s'inventer non plus.
Non, mais il y a des coûts qui sont rattachés contrairement au public. Ça, c'est clair. On peut pas. Par contre, je voudrais, ça peut varier. Les coûts environ, c'est entre 3 500 et 5 000 pour,
l'année.
Pour une année. Mais il existe des aides financières. Puis là, je n'ai pas le pourcentage, Vanessa, je pense que c'est 7 % qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est 7 % de notre clientèle qui a accès à des aides financières.
Gouvernementales, en faisant des demandes?
Ça, les subventions, ça, c'est autre chose.
Vous détachez
vraiment,
totalement.
Là, c'est ça, exactement. Ce que le parent là, doit payer, là, il y a des aides financières qui viennent avec ça. Toutes les écoles ont des possibilités d'aides financières, que ce soit des fondations, que ce soit en lien aussi avec des bourses, des fiducies, bref. Je vous dirais là, qu'en grande majorité, toutes les écoles offrent cette possibilité-là.
Peut-être en terminant, vous avez été en politique, vous voyez que, veut pas, ça, on va utiliser une expression très jeune, ça brasse dans le système de l'éducation. Il y a des défis qui sont hauts, qui sont forts, qui sont très sanguins aussi. T'sais, c'est émotif, là, l'école pour les parents. Autant on appuyait les enseignants pendant la dernière grève, mais aussi on voulait pas que ce soit au détriment des enfants. Et on le sentait, là, c'était incroyable, les textos qu'on recevait, les gens qui nous en parlaient, la grande division interne. Votre personnel enseignant, comment vous les motivez? Parce que vous avez la chance justement d'être en contact quotidien avec eux puis d'établir vos propres règles finalement d'embauche puis votre propre façon de communiquer avec eux, de les motiver. Y a-t-il quand même de l'énergie de plus mise sur le corps enseignant aussi?
Mais l'énergie est toujours là parce que moi, vous l'avez dit, c'est l'ADN d'une école. C'est moi, mon personnel enseignant, mon personnel tout court, là, mon équipe école dans son entièreté, parce qu'on parle des éducateurs ou des intervenants, tout le monde fait partie du fonctionnement de cette école-là puis de l'ADN de l'école. La motivation, moi, je vous dirais que... Puis là, je le dis, mais vraiment avec beaucoup je vais prendre l'expression avec beaucoup de papier bulle, l'avantage qu'on a d'une certaine façon au privé, c'est toute la flexibilité qu'on a, toute la possibilité de faire des changements rapides.
Vous appartient pas.
Exact. Donc, on a cette possibilité-là que lorsque nos enseignants avec des projets, puis je dis pas qu'au public, ça se fait pas, là, je suis vraiment pas...
J'entends pas ça comme ça. Puis, tu sais, hors d'onde, on s'est parlé, puis c'est pas un discours... non, c'est un discours qui vous appartient par rapport aux écoles privées, là, tu sais.
Mais il y a cette possibilité-là de pouvoir avoir justement cette grande flexibilité-là aussi, qui démontre que l'ouverture puis la possibilité de le faire, parce que je pense que tout le monde a une ouverture, tout le monde souhaite faire le mieux pour nos enfants, mais en tout cas, dans notre environnement, dans mon environnement, je peux vous dire que l'avantage qu'on a, c'est qu'on est capable d'aller de l'avant rapidement avec mettre des choses en place, amener des solutions, parce qu'on n'a pas toute cette lourdeur-là que d'autres...
Administrative un peu plus.
Quand je dis lourdeur, encore là, je sais, vous l'avez précisé, mais je trouve ça important de dire que c'est pas parce que l'intérêt n'est pas là à d'autres niveaux, mais qu'il y a une lourdeur qui vient avec leur poste ou...
C'est ça. Assurément, oui. Puis on le voit dans tous les paliers gouvernementaux. Fait que c'est pas qu'en éducation. C'est pour ça qu'on fait quand même le détachement entre votre présence ici. Merci beaucoup d'être passé en studio. Ça a été éclairant. Puis les gens peuvent y aller ce samedi 20 avril de 9h à 14h à l'amphithéâtre du PEPS de l'Université Laval. L'entrée est gratuite. Les stationnements sont disponibles. On se casse pas la tête. Puis en plus, ils sont gratuits au PEPS. On s'en va parler avec les intervenants. Vous allez être là, Marie-Josée Savard, en tant que porte-parole.
Exactement.
Oui. Les gens vont pouvoir venir vous poser des questions sur le travail.
Oui, il n'y en a pas de souci. Je vais être là pour répondre, ça va me faire plaisir.
C'est intéressant de voir que vous êtes bien. Vous avez trouvé justement un souffle dans tout ça. Puis l'éducation, c'est tellement important. On vous rappelle que c'est du préscolaire jusqu'au collégial. En fait, vous pouvez aller vous informer en fin de semaine. Merci. Oui, Vanessa Dessiel?
Oui, le week-end prochain, en fait. C'est le 20 avril.
Oui, j'ai dit le 20 avril, mais j'ai dit ce week-end. Je m'excuse.
Mais c'est pas grave.
C'est mon erreur. Donc, le week-end prochain, le 20 avril. Voilà, c'est très clair et limpide. Sinon, il y a toujours la page Internet qui a été créée pour ça, Salon de l'école privée, un milieu pour s'accomplir. Si vous allez voir ça, nous autres, on est bien fiers d'être partenaires, en fait, de ce salon-là pour donner un petit petit peu de lumière à l'éducation, chose qui nous importe énormément. Merci à vous d'être passé.
Merci pour l'invitation.
Bon salon. Merci. Le week-end prochain, pas celui qui arrive.
L'autre après.
Merci. Remède de Gab Bouchard à Boulevard 101. On revient dans un instant avec Jérémy Guillaume. On va parler de gouvernement encore, quelques propositions en immigration. Voulez-vous vraiment être consulté? Pensez-vous que ça va changer quelque chose? Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Pourquoi François Legault a amené la question justement à l'Assemblée nationale hier et partout dans les médias? On va aller explorer le tout. Restez là.
Avec Pascal Cévé.
D'un sujet à un autre, entre une émission de télé française qui court après le trouble. Fallait être là un petit peu plus tôt. Après avoir parlé avec Marie-Josée Savard pour le Salon des écoles privées, puis aussi de tramway et de tout ce qui s'était passé en politique municipale il y a quelques années, on s'en va rejoindre notre chroniqueur habituel au bout du fil. En fait, il est là pour un sujet bien précis. Jérémy Guillaume, salut!
Bonjour.
Bon, directeur chez TACT, dans le jus, constamment, en plus avec les événements politiques qui fusent de toutes parts. As-tu été, surpris hier de voir François Legault relancer l'idée d'un référendum, on l'appelle le référendum sectoriel, on dira c'est quoi, mais de reparler des pouvoirs en immigration. En fait, on menace de tenir un référendum sur l'immigration si les fameuses négociations dont on parle, toi et moi, ensemble, depuis le début de la saison, les négociations avec Ottawa pour obtenir plus de pouvoir là, dans ce domaine-là de l'immigration, si ça ne débloque pas d'ici le 30 juin prochain, on se dit on s'en va en référendum sectoriel pour consulter les gens. C'est quoi cette idée-là? Peux-tu nous la résumer?
Écoute, je me pose la question moi-même, Pascal, hein, parce que j'ai plus l'impression que c'est un pétard mouillé qu'une menace que le gouvernement a lancée. C'est comme si on avait un 2 puis un 7 dépareillé au poker, puis on essaie de bluffer all-in avec ça. C'est le bluff le plus facile à lire pour Ottawa. Jason Kenney, en Alberta, a déjà joué dans le même jeu, en faisant un référendum au niveau de la péréquation. Souvenez-vous, les Albertains disaient que c'était injuste parce qu'ils contribuaient davantage et ne recevaient pas de péréquation dans la redistribution des budgets au niveau des différentes provinces. Le référendum, à l'époque, avait passé à 62 % et malgré ça, le gouvernement fédéral l'a traité un peu comme une lettre à la poste ou un sondage d'opinion. Il a dit « Merci beaucoup, bonsoir ». Pourquoi? Parce que quand on veut, on fait un référendum. C'est vrai qu'on a le droit de le faire en tant que province, comme ce que François Legault propose de faire. Mais pour amender la Constitution, qui est l'objectif du référendum de François Legault, on a besoin d'avoir l'appui de six autres provinces pour avoir le débat. Et là, bonne chance à Québec d'aller chercher l'appui de six autres provinces pour venir les appuyer dans leur demande d'aller chercher encore une fois plus de pouvoir en immigration.
Et plus d'argent aussi pour le Québec seulement. C'est comme si je regarde mes voisins. En fait, je veux dire ma fratrie, tiens, c'est la journée des frères et des sœurs. C'est comme si moi, avec mes deux sœurs, je disais ah, « Papa, donne-moi plus d'argent, mais juste à moi. » Mes sœurs l'appuient, là, cette intervention-là.
Oui, et tu as déjà plus d'argent.
Et j'ai déjà plus d'argent. Oui, non, c'est
donc,
ça.
C'est là que c'est un bluff qui est facile à lire pour Ottawa parce que ça n'a... Si François Legault se lance, c'est un échec annoncé. Moi, pour moi, ce que ça me dit, c'est plus qu'on a pesé sur le bouton panique ou sur le bouton émotion. Et François Legault, ben, ses vieilles habitudes, il disait qu'il cherchait sa boussole. Il en a retrouvé une, mais il a sûrement retrouvé sa boussole, sa ancienne boussole péquiste. Et de lancer un référendum comme ça, je suis pas sûr que c'était planifié. Parce que là, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Ben, c'est la ministre de l'Immigration sortir puis essayer de remettre la pâte à dents dans le tube en disant « Attendez, nous, ce qu'on veut, c'est d'abord et avant tout des pouvoirs pour l'immigration temporaire et pour la francisation, ce qui est bien normal. » Mais quand on parle d'immigration temporaire, on oublie souvent de parler de deux choses. D'abord, c'est des gens qui sont souvent dans des situations très précaires, réunification familiale ou encore des réfugiés qui fuient des zones de guerre, comme par exemple les réfugiés ukrainiens. L'autre élément qu'on ne mentionne pas, c'est on va faire quoi avec les travailleurs temporaires qu'on a absolument besoin dans nos économies? Si on se promène dans les régions du Québec un peu partout, là, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de ce monde-là qui vient de travailler chez nous. Là, on est en train d'envoyer, on ne voit pas beaucoup de détails du côté du gouvernement, parce qu'on ne veut pas se mouiller à cet effet-là pour dire aux gens, bien, vous n'aurez plus les travailleurs dont vous avez besoin.
Mais là, les commentaires fusent de toutes parts. Puis d'abord et avant tout, j'aimerais ça, Jérémy, qu'on refasse une petite parenthèse là, sur ce référendum-là. On irait questionner qui là-dedans? Puis admettons qu'on le faisait, OK? Ce serait quoi l'avantage du Québec si on en venait à notre idéal gouvernemental dans ce choix de référendum?
Bien, un référendum, on viendrait questionner la population du Québec au grand complet. La question référendaire demeure très floue en ce moment parce que François Legault disait, bon, ça pourrait être très large. Qu'est-ce qu'il va demander? François Legault dit vouloir tous les pouvoirs en immigration. Moi, ça me surprend qu'il voudrait tous les pouvoirs en immigration parce que je suis pas certain qu'il voudrait avoir, par exemple, des postes frontaliers du Québec aux frontières des États-Unis parce que tant qu'à ça, aussi bien demander l'indépendance du Québec. La question référendaire, après ça, ça pourrait s'appliquer, par exemple, ce qui avait été fait en Alberta à l'époque, c'était de l'appliquer au vote municipal. Donc, les citoyens pouvaient alors voter pour leur représentant au municipal et de voter sur la question au niveau, par exemple, de l'immigration temporaire. Voulez-vous, oui ou non, réduire l'immigration temporaire au Québec? C'est la question référendaire, ça demeure le nœud de la guerre, ça demeure ce qui est plus fou. Moi, pour moi, on ne se rendra pas là. Les deux gouvernements ont intérêt à s'entendre. Les deux gouvernements, ça va pas très bien. Ils vont vouloir montrer qu'ils ont des gains. Du côté d'Ottawa, il y a de l'ouverture au niveau de la francisation et d'en faire plus pour intégrer les nouveaux arrivants en français. Mm-hmm. Du côté de Québec, on en veut un peu plus. Mais bon, je pense qu'on n'aura pas le choix de mettre de l'eau dans son vin. Parce que un référendum, en ce moment, pour moi, je ne vois pas un monde dans lequel on le fait, un. Et dans un monde auquel, même si le référendum était positif, où on irait chercher des gains concrets pour vrai à la fin. En ce moment, pour moi, c'est un écran de fumée que François Legault fait.
Bien, certainement qui occupe l'Assemblée nationale en ce moment. Je regardais, bien, je n'écoute pas, je regarde pendant qu'on se parle la période de questions. Bien, c'est François Legault qui est debout, en train justement d'aborder tout enjeu du référendum sur l'immigration puis se faire justement questionner par l'opposition là-dessus.
Éric Kerr, les libéraux vont l'accuser d'être souverainiste. Et les souverainistes vont dire, bien, tant qu'à demander un référendum, pourquoi ne pas demander un référendum sur l'indépendance du Québec? C'est un mauvais calcul politique, selon moi, que François Legault a fait, parce qu'il tombe dans le piège de Paul Saint-Pierre Plamondon. Plus le PQ va chauffer François Legault dans les sondages, et là, il l'a dépassé, mais plus on va les voir performer, plus on risque de voir un François Legault un peu en mode panique, intempestif, nous sortir à la va-vite des initiatives comme celle-là. Mmh. Et là, on voit encore Christine Fréchette qui essaie de remettre la pâte à dents dans le tube en disant « mais c'est pas tout à fait ça ».
Oui, elle a pris la parole à 10h30 ce matin hein, pour dire « ouais, c'est pas exactement ce qu'on veut dire ».
Exactement. T'sais, ils veulent, bon, ils parlaient d'avancer en matière d'intégration, d'exigences linguistiques, une réduction des résidents non permanents, puis des réponses quant à la demande de Québec d'obtenir le plein remboursement des dépenses encourues par les demandeurs d'asile. Et là, Québec a raison d'aller là. Mais où Québec n'a pas raison d'aller, c'est, par exemple, quand on s'attaque aux demandeurs d'asile. C'est une cible facile et des fois, on oublie de mentionner des chiffres importants.
Oui, il y a des enjeux qui ne sont pas discutés. Puis je pense qu'en ce moment, dans tout ce qui se passe avec l'inflation, l'économie, la difficulté de logement, la difficulté d'approvisionnement, la difficulté de travail, pas nécessairement d'avoir des emplois, mais quel emploi tu peux avoir si on avait un référendum ici au Québec? Bien, les gens, bon, je pense qu'ils participeraient beaucoup parce que juste le fait de l'évoquer, on voit beaucoup de commentaires. Cependant, est-ce que ça donnerait le poids au Québec face à Ottawa? Assurément pas dans mon point de vue. Mais j'ai poussé la réflexion plus loin, puis tu peux me dire, hey, arrête-toi, Pascal, va pas là. Mais j'ai envie de te questionner, en fait, Jérémy, est-ce qu'on n'a pas choisi d'aller... Puis là, vous allez comprendre où je vais, puis au pire, vous m'en voudrez, là. Il y a une chaleur et des tensions par rapport à l'immigration au Québec. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout qu'on ouvre les portes un peu plus. Il y a parfois des craintes. Il y a parfois de l'opposition assez, disons... je vais dire de l'opposition agressive qu'on peut voir là, dans certains secteurs ou prises de parole par rapport à tout ça. On parle pas souvent d'intégration, on parle juste du fait « non, j'en veux pas, papa, des gens de d'ailleurs, on a déjà de la misère à s'occuper de nous, notre argent doit rester ici ». Est-ce qu'on n'est pas allé titiller le point, comment dire, facile non négligeable et émotif du Québec en ce moment en évoquant cette possibilité de référendum-là auprès de la population québécoise chez la CAQ. Est-ce qu'on n'est pas allé, je trouve, de façon un petit peu démagogique, jouer avec une fibre?
On tombe absolument dans de la petite politique. Mais c'est une question qui se pose pas juste au Québec, mais à l'échelle du pays. Savoir est-ce qu'on en a trop, est-ce qu'on en a pas assez. Ça se pose dans toutes les provinces. L'Ontario, on commence à en accueillir plus d'immigration temporaire. L'autre question qu'on doit se poser, c'est si on n'accueille pas plus d'immigrants, c'est quoi notre solution? Parce que, je sais, on fait de moins en moins d'enfants, notre taux de croissance est de moins en moins élevé. Si on veut continuer à avoir une économie qui prospère, qui se développe et qui grandit, ça va prendre de la main-d'œuvre et ça en prend.
Puis on n'a pas ici, donc on ne peut pas en inventer non plus. Là. Puis
exactement,
tout ce qui est agroalimentaire, donc, on a besoin de plusieurs travailleurs étrangers aussi si on veut avoir notre agriculture dans notre assiette.
Bien, regardez le secteur des pêches. Il n'y a pas longtemps, quand on a annoncé au fédéral qu'on réimposait un visa pour les Mexicains, ça a failli mettre en jeu le début de la saison des pêches, de la pêche au crabe. Donc, c'est des enjeux qu'on ne peut pas balayer sous le tapis, sous l'effet de l'impulsivité. C'est plus complexe que ça. Mm-hmm. Et là, on parle de l'économie, mais il y a aussi un devoir international où ce qu'on est choyé au Québec et au Canada d'habiter où on habite. On n'habite pas en zone de guerre. On n'habite pas dans une zone qui se fait ravager par des catastrophes naturelles à nauséam. On est chanceux d'habiter où on habite. On a aussi un devoir. Ce qui manque souvent dans le dossier de l'immigration chez François Legault, c'est un peu d'empathie. Les Ukrainiens n'ont pas choisi de quitter l'Ukraine en venant se réfugier au Canada.
Et pour beaucoup, ils participent très bien en ce moment à la société. Là, on pourrait faire des portraits ukrainiens, puis on verra à quel point ça a été majeur dans même ce qu'ils nous ont apporté. Là.
Effectivement. C'est à un moment donné, il faut se donner un peu plus de nuances quand on parle d'immigration. Et c'est facile d'aller parler de la menace de l'identité ou de la menace au fait français. Donnons-nous les moyens de bien intégrer ces personnes-là en français.
C'est ça. C'est là où le bas blesse. En fait, c'est dans le fait de se côtoyer, de se comprendre, de jaser. Puis moi, je vais faire ma part des choses la semaine prochaine parce que là, je vois que l'émission tire à sa fin, Jérémy. Puis j'adore cette discussion-là qu'on a ensemble. Mais j'avais invité des Congolais en onde par des clips que j'avais enregistrés dans une partie de soccer là, totalement frivole et amicale. Puis j'avais une grosse conversation politique puis sociale avec eux. Je les avais lancés pour qu'ils viennent s'asseoir en studio. C'est sûr que de 10 à 11 heures, ben, ils travaillent justement pour faire rouler l'économie puis participer à la société. Mais je vais les relancer. Il y a des conversations importantes à avoir aussi sur notre propre ouverture individuelle, mais en tant que société, parce que l'enjeu est là. Finalement, c'est comment est-ce qu'on les intègre ici. Mais en même temps, Jérémy, on peut comprendre les gens qui ont de la misère à se loger et tout, de se questionner. Ça, je veux dire, on ne peut pas être contre la vertu, soit les gens qui se questionnent.
Non, effectivement. Puis c'est pour ça que je dis, ayons des vraies conversations sur les vrais enjeux. Comment construire plus de logements plus rapidement? Comment à financer notre système de santé comme il faut. Trouvons des solutions constructives. Ne faisons pas juste balancer une idée de référendum comme ça à la va-vite parce qu'on est pris puis parce qu'on perd des points dans les sondages. Pour moi, c'est pas productif. Et c'est ça qui alimente le cynisme de la population envers les politiques.
Absolument. Puis on a ce devoir-là en tant que politicien, normalement, de pas en arriver là. Merci beaucoup, Jérémy Guillot, directeur chez TAQ. Un plaisir de t'avoir parlé. Bon, ils vont me sortir des ondes en partant un bloc publicitaire. Donc, on se dit bonne journée.
Merci, Pascal.
Bonne fin de semaine, puis à la semaine prochaine. C'est tout pour l'heure CV. Un gros merci d'avoir été là. Une émission bien chargée dans laquelle, j'espère, il vous restera certaines bribes, en fait, à jaser à la machine à café aujourd'hui. Dans un instant, Marceau s'amène parce que c'est Marceau le midi qui commence avec Marceau ou Yannick Marceau. J'ai-tu assez dit que c'est Yannick Marceau qui s'en vient? Thomas Gauthier et moi-même. Hey, merci beaucoup d'avoir choisi Boulevard 102.1. Puis restez sur les ondes. On revient dans un instant.